Je suis en compagnie d'Emmanuel de Marcimota, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dramaturge, metteur en scène, directeur de ce lieu. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Nous allons, tout le long de notre entretien, évoquer la littérature, le théâtre bien sûr, mais aussi la saison croisée France-Portugal que vous avez fièrement présidée en 2022. Nous aurons l'occasion aussi de parler de politique, d'histoire, mais commençons maintenant par ce qui nous est tangible. Nous sommes ici au Théâtre de la Ville qui accueille depuis le 16 janvier dernier jusqu'au 10 février prochain votre mise en scène du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare dans une nouvelle traduction de François Regnault. C'est entre 1594 et 1595 que Shakespeare écrit le Songe d'une nuit d'été. Votre mise en scène a lieu 430 ans plus tard. Ma première question est très simple. Emmanuel de Marcimota, comment vous est apparue l'envie de monter cette pièce-là, ce Shakespeare-là?
Alors, il y a plusieurs faisceaux, il y a plusieurs raisons, comme on dit. La première, c'est que je connaissais bien cette pièce depuis longtemps. Et puis, il y a des raisons, je ne sais pas si je vais commencer par les raisons les plus intimes, les plus secrètes, comme on dit, qui amènent à choisir un texte plutôt qu'un autre pour un metteur en scène, ou si je commence par les raisons les plus formelles. Je vais commencer par les plus formelles. Les plus formelles, c'est que j'ai travaillé sur des textes de Shakespeare il y a plus de 20 ans. Et j'avais mis en scène une pièce qui s'appelle « Peine d'amour perdu ». En anglais, c'est « Love's Rebels Lost ». Ici même, qui a été présenté, mais ça a été ma rencontre avec le Théâtre de la Ville, en fait, cette pièce de Shakespeare, dans laquelle il y avait 16 comédiens. J'en ai fait d'ailleurs une version plus tard au Portugal, à Lisbonne, au Théâtre Dona Maria, au Théâtre National, à Lisbonne, avec une troupe à moitié portugaise et à moitié française. J'avais proposé qu'il y ait 8 comédiennes et comédiens français et 8 comédiennes et comédiens portugais, une parité des deux langues. Mm-hmm. Et les Français jouaient dans leur langue et les Portugais dans leur langue. Puis c'était surtitré. On a joué pendant près de 2 mois au Théâtre National, au Dona Maria à Lisbonne, Praça do Rossio. C'est la grande place magnifique et c'est le théâtre où ma maman a commencé sa carrière d'actrice à la fin des années 50, ainsi que João Mota, qui est le directeur du théâtre da Comuna à Lisbonne, qui est mon oncle, le frère de ma mère. Et donc, c'est aussi un rapport fort à Shakespeare parce que, une autre raison que je vais vous donner, c'est que ma mère, elle a commencé sa carrière à Lisbonne. Je dirais, elle a été très connue à la fin des années 50 avec Roméo et Juliette. Dans le rôle de Juliette, et c'est un très grand acteur qui vit toujours d'ailleurs, portugais, qui jouait Roméo, qui s'appelle João Péri. Et João Péri et Teresa Motte avaient, ensemble, c'était sous la dictature, mais jouaient cette grande pièce de Shakespeare. Et ma mère m'en a souvent parlé, voilà. Teresa Motte, qui était ma maman, et elle m'en a souvent parlé, et ça m'a beaucoup marqué. Donc j'avais envie de revenir à Shakespeare, parce que ma maman est décédée, c'est pour ça que je vous dis, c'est aussi des questions plus profondes, est décédée il y a maintenant presque 2 ans, enfin, voilà, je ne sais plus exactement, parce que je n'aime pas compter ça. Et j'avais envie aussi que cette pièce, en moi, résonne et fasse résonner des choses qu'elle m'avait transmises, qu'elle m'avait données. C'est une mémoire aussi, ça la concerne elle et moi, j'ai envie de dire, et ceux qui savent, mais je partage avec vous aujourd'hui. Et je dirais, avec Shakespeare, c'est pas difficile, puisque c'est un des plus grands auteurs qui traverse la nuit des temps. Donc cette pièce, en trois raisons simples par rapport à votre question, qui est très large, vous voyez, sur qu'est-ce qui amène un metteur en scène, un directeur de théâtre, à choisir une pièce au moment où le Théâtre de la Ville a été fermé pendant 7 ans, place du Châtelet, avec laquelle on va réouvrir, et avec quels acteurs, avec quel sujet. Donc le sujet, la troupe. Une troupe d'acteurs, 16 comédiennes et comédiens. Je vous rappelle qu'il y en a avec qui je travaille depuis près de 25 ans maintenant. Donc, il y a vraiment une fidélité, une compagnie. C'est quelque chose d'assez rare, je pense, pour être souligné. Parce que moi, je combats sur cette idée de la durabilité, si vous voulez. Qu'il y ait une relation durable, qu'on dure dans ce qu'on fait, qu'on ne fasse pas juste des coups, des effets. Une politique politicienne, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on fait des coups d'éclat ou du journalisme rapide, et puis on oublie tout ce qu'on a dit, on dit l'inverse d'ailleurs de ce qu'on a dit 15 jours après, quoi. Donc comment est-ce qu'on essaie d'ancrer, je dirais, une trajectoire, quelque chose de plus profond, de plus subtil aussi. Donc ça demande du temps. La subtilité, c'est du temps. Ça, malheureusement, c'est pas le temps souvent dans lequel on vit aujourd'hui. Donc cette pièce de Shakespeare, ça me permettait de revenir, le Songe d'une nuit d'été, sur un travail qui a été fait il y a 20 ans avec des acteurs ici même, à Paris, mais aussi au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. On a beaucoup joué à Aubervilliers, à Blanc-Ménil. Donc pas que dans Paris intramuros, dans des banlieues importantes autour de Paris, où il y a des théâtres, où il y a des communautés différentes, une grande communauté portugaise d'ailleurs aussi à Aubervilliers et ailleurs, à Blanc-Ménil aussi, et de rencontrer ces populations avec ces pièces de Shakespeare, de rencontrer des publics différents, de pouvoir croire en cette démocratie culturelle avec cette transmission justement de la pièce, une pièce comme ça écrite à la fin du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Comment tout ça peut exister? Alors cette pièce, c'était aussi l'occasion de retrouver la troupe, mais aussi de retrouver le Théâtre de la Ville où j'avais travaillé en compagnie, Et puis, cette chose extraordinaire qu'il y a dans cette pièce, c'est une pièce qui amène l'autre monde, un monde imaginaire, un monde merveilleux, et d'essayer de toucher un public très large, parce que c'est plus de 20 000 places, hein, cette pièce, aujourd'hui offerte à Paris. Voilà, c'est une joie.
Dans votre mise en scène, la question de l'espace est importante aussi. Vous avez à cœur de surprendre le spectateur et la spectatrice en faisant surgir des personnages des dessous, en suspendant une actrice au cintre, en les faisant apparaître de l'obscurité du lointain. Vous aimez l'espace au théâtre, un espace où les personnages naissent d'ailleurs, plus qu'ils n'y rentrent. Il n'y a pas à proprement parler d'entrée ou de sortie. Les caractères apparaissent dans cet espace qui est un personnage à part entière de la pièce.
Oui, vous en parlez très bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en travaillant sur cette pièce où il y a trois mondes, je vous rappelle qu'il y a le monde des lords, le monde voilà, des humains qui sont... aristocratie anglaise avec laquelle Shakespeare joue et se moque aussi, le personnage plus populaire qui sont celles et ceux qui vont inventer le théâtre, et ça on retrouve ça aussi dans Roméo et Juliette, dans Hamlet, dans d'autres grandes pièces, mais là il invente un troisième monde qui est le monde des fées, le monde de la féerie. Et donc comment faire exister tout ça, coexister tout ça à la scène de théâtre aujourd'hui pour essayer de surprendre le spectateur, essayer de l'émouvoir en même temps, tant intellectuellement que émotionnellement. Alors j'avais envie effectivement que les acteurs surgissent sur la scène, apparaissent à la scène, j'ai envie de dire même naissent à la scène, plutôt qu'ils arrivent de la coulisse ou qu'ils surgissent des coulisses, quoi. Tout le travail a été élaboré, effectivement, Valérie Dashwood est dans les cintres, elle vole, c'est elle qui joue le rôle de Titania, et c'est très important aussi de pouvoir utiliser, je dirais, toute la mécanique du théâtre, c'est-à-dire, je vois bien aujourd'hui des gens jeunes qui viennent au théâtre, on a beaucoup de gens jeunes qui viennent en ce moment, de pouvoir les surprendre avec toutes les possibilités qu'il y a au théâtre. Ça n'est pas que de la déclamation, ça n'est pas que de la récitation, comme je dirais, ce qu'on fait des fois dans les mauvais cours d'école de théâtre, mais que ce soit quelque chose, justement, qui crée du merveilleux, de l'émerveillement, en fait, qu'on puisse partager. Donc, c'est vraiment une dimension très importante dans ce spectacle, celle que vous soulignez, qui est l'espace, en fait. Vous avez parlé de l'espace, c'est-à-dire une dimension qui, justement, réunit des possibles, l'imagination en fait. C'est dans l'espace, comme les enfants, vous savez, ils jouent à la marraine, ils inventent un espace dans la cour de récréation. C'est la liberté de l'être humain qui se joue dans cette question de l'espace en fait.
Le songe d'une nuit d'été exprime chez Shakespeare, au-delà de toutes les questions qui touchent à l'amour, puisque le songe est écrit à la même période, comme vous le savez, que Roméo et Juliette, ou encore Peine d'amour perdu que vous évoquiez, je trouve qu'elle exprime aussi un besoin de s'enfuir, un besoin d'aller ailleurs chercher... un endroit ou un espace où être heureux. Et ce fut un peu votre cas aussi, car vous avez eu besoin d'aller chercher une nouvelle traduction, comme on irait chercher, comme on irait défricher un nouveau territoire. Comment trouve-t-on la langue française par rapport à la langue shakespearienne?
Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes très, très précis dans vos questions. Elles sont très justes. Je me permets de vous le dire parce que, effectivement, j'aime, mais peut-être c'est mon côté binational, je parlais de ça il y a quelques jours, le fait d'avoir deux pays, deux nations, deux pays, un père, une mère, deux langues, d'être européen, qui est que c'est une manière, alors je dirais pas de m'enfuir, mais de chercher quelque chose de nouveau, sans avoir peur de perdre quelque chose. C'est-à-dire, dans les personnages shakespeariens ou dans toute notre question, nos migrations, etc., comment être portugais et français aujourd'hui à la fois, sans avoir le sentiment de trahir plus l'un que l'autre, d'aimer plus un pays que l'autre? Non, on peut aimer les deux. Et on peut être heureux dans les deux. On peut être heureux dans les deux langues. Eh bien, avec Shakespeare, c'est cette idée aussi. C'est qu'il faut aller ailleurs, chercher ailleurs, migrer ailleurs, finalement, pour découvrir l'amour. Je crois que ça a été le cas de ma mère. Elle est partie du Portugal, elle a rencontré un Français, et elle s'est mariée avec lui, et voilà, je suis né. Donc c'est aussi la rencontre avec l'autre. Et cette altérité, si vous voulez, si on le dit un peu sérieusement, c'est le rapport non pas à l'identité, alors. En France, on parle, il y a eu un ministère de l'identité nationale, sous Nicolas Sarkozy, il y a des questions sur l'immigration qui sont tout le temps posées. Bon, et il y a ce repli identitaire qu'on connaît, y compris même au Portugal, avec la montée des extrêmes. Bon, il faut se méfier, il faut être clair, il faut se méfier de tout ça. Il faut faire attention à ne pas devenir populiste, poujadiste, comme l'ont été les Français, maurassien, comme l'a été d'une certaine manière Salazar, comme dictateur au Portugal. Il faut faire très attention à tout ça. Il faut croire à ce rapport, pas seulement d'identité, mais d'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'autre. L'altérité, c'est alter ego. Alter, ça veut dire l'autre. Eh bien, pouvoir partir ailleurs, c'est avoir un rapport d'altérité, c'est-à-dire avoir envie de rencontrer l'autre, ne pas avoir peur de l'autre, comme disait Albert Camus, mais penser que l'autre, c'est aussi une richesse. Il va falloir composer avec la différence, faire avec, travailler avec cette différence-là, c'est essentiel. Donc la pièce, elle parle aussi de ça. La traduction et une autre langue, passer de l'anglais là au français, mais moi, je l'avais demandé à un grand poète portugais quand j'avais fait Peine d'amour perdu à Lisbonne, justement, j'avais demandé à Nuno Judice. Nuno Judice, c'est un très grand poète de la langue portugaise, un immense connaisseur de la France. Il était en poste aussi en France quand il a travaillé à Paris. Eh bien, on a besoin des grands poètes, des grands traducteurs qui vont nous aider à penser. Donc, François Regnault est une grande personnalité de la traduction. Il a traduit pour Patrick Chéreau, pour plein de metteurs en scène, pour plein de personnalités fondamentales du théâtre et de l'histoire de la traduction. Il a connu Michel Foucault, Deleuze. Il a été lacanien, freudien, enfin bon. Donc c'est ce qu'on appelle les grands intellectuels français. Et c'est ce qui a fait la force de ce pays aussi, hein, dans le XXe siècle. Alors, j'ai demandé à François Regnault, oui, de retraduire entièrement la pièce, de la reprendre totalement et d'aller vite. Je lui ai annoncé au mois de mai dernier, hein, et je lui ai dit, je la monte là, attention, j'accélère, j'ai décidé que c'était cette pièce. Et il a plus de 80 ans, et ben, il a accéléré. Il a montré qu'il était capable de se mettre au travail et d'y aller. Et il a réussi une traduction qui est la meilleure traduction aujourd'hui, je le pense, qu'on ait du Songe du d'été en France, dans ce qui a été fait, parce qu'il a cette connaissance immense, grâce à son âge en fait. Donc c'est aussi ce rapport-là qui était essentiel, c'est réussir à traduire les jeux de mots de Shakespeare, les nuances, mais aussi la brutalité dans sa langue, aussi la grivoiserie, quelquefois, les gros mots même. Bottom, c'est intraduisible en français. Bottom en anglais, ass, ça veut dire le cul, pour être clair, en langue anglaise, c'est une insulte, mais c'est aussi un âne. Et le bottom, c'est le jeu sur le cul et ce qui n'a pas de fond. Et donc c'est intraduisible. C'est-à-dire qu'il dit à un moment, tu es un bottom. C'est-à-dire que je peux te dire, comme on dit en portugais, caga de cu. C'est une insulte très, très, très brutale. Mais c'est Shakespeare, ça, hein? Et c'est pas moi qui parle, là. Je parle dans les mots de Shakespeare. Mais on peut dire aussi que c'est quelque chose qui n'a pas de fond. Et on dit alors c'est un âne. Vous voyez? Donc il y a des langues, comme la langue anglaise, qui contiennent en elles, mais le portugais aussi, la langue française aussi, étant d'autres langues, toutes les langues finalement contiennent en elles plusieurs sens. Donc le travail du traducteur, c'est d'aller sur ce terrain étranger, puisque c'est de ça dont vous parliez, de partir ailleurs, pour comprendre et comment traduire dans une autre langue tout en produisant des émotions. Ça, c'est essentiel.
Cette pièce a quelque chose d'alchimique aussi. Elle expose aux yeux de toutes et tous un monde invisible peuplé d'autres êtres qui peuvent avoir, et c'est le cas ici, une incidence sur notre monde à nous, sur nos propres existences. Emmanuel de Marsimota, êtes-vous attentif aux mécanismes de l'irrationnel? Croyez-vous, en dehors du rationnel, que des forces peuvent agir sur nous, que des mondes différents communiquent? Je vous pose la question parce que c'est la question que Shakespeare nous pose dans le
Bien
Songe
sûr,
du d'été.
bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, je vais jouer un peu avec votre question. Je ne vais pas dire que je crois aux forces de l'irrationnel, parce que sinon, vous diriez ensuite, bah, il est un peu fou, etc. Donc, évidemment qu'on doit défendre quelque chose qui est de l'ordre du rationnel, parce que, par exemple, Trump, des fois, il devient irrationnel. Donc, il faut se méfier des extrêmes politiques. Dans l'extrême droite, on l'a souvent vu, ça devient irrationnel. Donc, on doit combattre cette dimension. Par contre, il y a un autre mot, c'est l'autre monde. Shakespeare parle de l'autre monde et il nous interroge sur l'autre monde. Le monde des, ce qu'il appelle le monde des fées, mais c'est dans la culture anglaise, ça vient de très très loin, le monde païen, et il s'interroge sur les rituels, sur les croyances, quelles qu'elles soient. Et le besoin des croyances dans toutes leurs différences, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je vais vous dire très franchement, je connais bien des rites très anciens qui existent au Portugal, qui ont été même des rites païens. Je connais très bien la ville de Tomar, où il y a le couvent, puisque ma mère y est née, le couvent du Christ, mais qui était d'abord le château, l'ordre des Templiers, qui a été constitué quasiment à cet endroit-là. Mais il y a aussi, je dirais, dans le rapport au continent africain, moi je vais beaucoup sur le continent africain, justement, j'ai été dans des grandes forêts. J'ai été dans les forêts en Centrafrique, mais aussi au Cameroun, où il y a des rituels de transmission, entre les êtres. Trans, vous savez, transmission, trans, le mot trans, ça veut dire la frontière. Donc transfrontalier, comme on dit, au-delà de la frontière. Transmission. Tous ces mots existent parce qu'ils disent bien qu'il y a quelque chose de l'autre côté d'une frontière. La question, c'est justement comment travailler poétiquement, c'est le rôle de l'artiste, d'amener, de faire voir des choses qui ne sont pas nécessairement visibles dans la vie quotidienne, la vie marchande. L'artiste, c'est pas juste la création, c'est le peintre, le sculpteur, la musique qui nous permettent, à travers un acte de création, de faire apparaître des choses qui nous interrogent sur nous-mêmes. Vous savez, souvent les gens, et ça a été la grande pensée dans la philosophie française, qui est de dire, apprends à te connaître toi-même. Qui es-tu, d'abord, avant de juger l'autre? D'apprendre soi-même à réfléchir sur d'où l'on vient, quelles sont nos origines, où est-ce qu'on a envie d'aller? Et apprendre soi-même à faire un chemin avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui a à voir avec le rituel, qui a à voir avec l'invisible. Celui ou celle qui me dit que tout est visible et qu'il sait tout, il m'inquiète. Donc, c'est par notre questionnement, y compris sur le sens de notre vie, sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le respect de l'autre ? Sur des questions, quelquefois la religion les a posées, le monde politique doit les poser, qui s'appelle la démocratie aussi, le respect depuis longtemps d'une vie en communauté pour notre espèce humaine, pour ne pas être juste en guerre et dans quelque chose qui est irrationnel, qui est la pulsion de mort, mais qui fait partie de notre vie. Et donc, comment travailler contre cette destruction ? On a besoin des armes, j'allais dire, de la culture, de la pensée, du savoir, pour pouvoir échanger, dialoguer, et ne pas seulement être dans la polémique. Donc, cette pièce, elle contient en elle toutes les questions que vous soulevez là. C'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que Shakespeare est un génie, c'est pour ça que le public, ils sont 1000 tous les soirs. Vous avez vu la pièce, vous voyez bien l'enthousiasme des gens. C'est parce qu'on peut voir quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, croire en des forces autres. Comment vos parents sont en vous quand ils sont morts ? Comment les morts continuent à exister ? Est-ce que c'est rationnel ou irrationnel ? C'est d'abord la question du respect de la vie humaine. Mais pour respecter la vie humaine, il faut savoir ce qu'est la mort. Et ce qu'est la mort, c'est comment nous continuons à faire vivre ce que nous avons aimé en nous ou par la littérature, par les arts, et c'est donc la question de la transmission. La transmission est quelque chose qui n'est pas toujours rationnel.
Et le théâtre est originellement un culte. Le théâtre et la religion ont une même racine.
Absolument. C'est très juste, je souris parce que peu de gens le savent ou le disent. Le théâtre et la religion sont nés de la même racine, et ils se sont éloignés l'un de l'autre. Le théâtre a combattu quelquefois la religion, et en particulier l'extrémisme. Bertolt Brecht, dans ses écrits, et tant d'autres auteurs, pour toujours défendre la liberté de mouvement, la liberté de penser, comme quelque chose de fondamental dans l'écriture. Mais la racine est commune, c'est-à-dire tout simplement le mot théâtre en grec, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je me permets de le dire, ça veut dire l'endroit d'où l'on regarde. Le mot théâtre veut dire l'endroit d'où l'on regarde. Le théâtre ne veut pas dire l'art du théâtre, je peux dire un terrain de tennis, c'est un théâtre. D'ailleurs, quand il y a une guerre, on dit la guerre est le théâtre, le théâtre est la guerre. Et c'est un théâtre, la guerre. Bon. Donc c'est un mot qui, vous voyez, quand on l'interroge, quand on essaie de le comprendre, un théâtre, ça n'est pas que le théâtre. C'est un mot qui est très ouvert. Ça, il dit aussi un bâtiment. Un théâtre, c'est un lieu. C'est une discipline artistique. Mais c'est aussi autre chose. C'est l'endroit d'où l'on regarde, d'où l'on écoute, c'est-à-dire l'endroit où l'on se réunit. Donc le mot religion, on entend bien qu'il y a le mot relier. C'est qu'est-ce qui nous relie ? Donc le théâtre interroge de la même manière. Depuis la nuit des temps, depuis les Grecs et son invention, même si dans d'autres cultures, j'aime souvent le rappeler, dans la culture africaine, le mot théâtre n'existe pas. C'est un mot grec puis latin. Mais on peut faire du théâtre, même si on n'avait pas le mot. Et les enfants jouent au théâtre, s'inventent des personnages, créent un imaginaire. C'est quelque chose, je pense que c'est important d'être clair sur ce point, qui existe depuis la nuit des temps, qui interroge notre croyance, qui interroge notre connaissance de l'être humain, de nos relations. Le théâtre continue, et je vais vous dire, il n'y a jamais eu autant de gens qui vont au théâtre qu'aujourd'hui sur la planète. Au XVIe siècle, du temps de Shakespeare, il n'y avait pas tous ces théâtres, ni en France, ni au Portugal. Le centre dramatique d'Évora, de la ville d'Évora, n'existait pas au XVIe siècle. Il y en a un, ce théâtre accueille des gens. Il n'y avait pas le théâtre de Kmoun, le théâtre, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont nées. On peut en construire plein, et il y aura plein de gens qui vont au théâtre, si vous le faites bien. Les êtres humains aiment le théâtre par essence. Ils pensent qu'ils ne l'aiment pas parce qu'ils n'y vont pas. Mais c'est parce qu'ils ont la télévision, c'est parce qu'ils ont le téléphone portable, c'est parce qu'il y a les restaurants. Donc, le théâtre du temps de Shakespeare, eh bien, tout le monde y allait. Donc, on peut retrouver cet amour-là. C'est très simple, c'est facile, il suffit de le transmettre. Mais ça veut dire alors que vous engagez dans un acte de transmission.
Il y a plusieurs êtres en nous-mêmes, disait Fernando Pessoa, et nous avons aussi parfois plusieurs pays, c'est votre cas, votre nom l'illustre bien, de Marcy, Mota, on y entend la France et le Portugal. Racontez-nous cette ambivalence, racontez-nous votre franco-portugalité.
Il y a un trait d'union entre le mot de Marcy et le mot Mota, le nom que j'ai souhaité. Je vous rappelle que quand je suis né en France, dans les années 70, on ne pouvait pas porter le nom de sa mère. Donc je suis né Emmanuel de Marcy sur ma pièce d'identité française. Je trouvais ça absurde parce que je passais beaucoup de temps à Lisbonne avec mon oncle, le frère de ma mère, jouant Mota avec beaucoup d'amis, des grands artistes souvent, jusqu'à au plus grand, enfin je veux dire un des plus grands, celui qui a créé la chanson de la Révolution du 25 avril, Grandola, et toutes ces amitiés avec même quelqu'un comme, bon, bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais c'est José Fons, que j'ai connu enfant, très bien, qui était un grand ami de ma mère et de mon père. Mais aussi, il est vivant, je pense à lui à l'instant, Francis Fengage, qui vit à Auschwitz et qui a été un des chanteurs de Grandola et qui a permis de faire l'enregistrement de Grandola à Paris. Vous savez, Grandola a été enregistré dans la banlieue parisienne avant la Révolution.
À Hérouville.
Oui, alors, ça a été à Hérouville. Il y a eu un premier studio qui a été essayé, où ils avaient mis justement du gravier par terre. Ils attendaient qu'il n'y ait pas de voiture la nuit pour enregistrer ces fameux pas que vous entendez sur les graviers. Et il y avait donc Zeca Fons, évidemment, Zemba Gnubrink, Francis Fengage, etc. Et mon père était en lien avec eux, donc je connais très bien cette histoire. Ils l'ont tellement raconté quand j'étais enfant, j'ai tellement entendu. Et j'ai été marqué, par rapport à votre question, dans mon enfance, par des figures d'intellectuels portugais, français, des gens qui ont milité, qui étaient prêts à prendre des risques pour leur propre vie, pour que la dictature cesse, que la guerre d'Angola aussi s'arrête, qui était une des plus longues guerres quand même sur le continent européen, enfin de l'Europe avec l'Afrique, pardon. Et il ne faut pas oublier tous ces éléments. La révolution des œillets, c'est la fin aussi de la guerre coloniale. Hein. C'est le rapport aux colonies dont Salazar voulait absolument pas se quitter. Il voulait absolument garder l'Angola, garder le Mozambique. Et on sait, voilà, qu'il fallait lutter pour qu'il y ait une indépendance de ces pays, comme la France a dû le faire avec l'Algérie, etc., etc. Ça pose une grande question du continent européen, et d'ailleurs de ces deux pays, de l'Angola et du Portugal, dans leur rapport à la francophonie ou à la lusophonie. Et c'est quelque chose de très, très important. Donc moi, j'ai bercé, j'ai été baigné par ces deux cultures, et puis en même temps, des endroits très retirés, hein, c'est-à-dire beaucoup, pas du tout du monde intellectuel, mais dans l'Alentejo, près d'une ville qui s'appelle Odmira, comme ils disent les Français, qui est une région très paysanne, qui dans les années 70, quand j'y allais enfant avec mon père qui adorait cet endroit, où il y a eu la révolution agraire, hein, Reforma Agrária, c'est pour ça qu'il y a cette chanson aussi Grandola, où il y a eu cette connaissance de qu'est-ce qu'a été la Reforma Agrária au Portugal, avec des utopies qui ont été extrêmement importantes. Et cette révolution agraire, justement, bon, je l'ai aussi bien connue parce que mon père a écrit des pièces sur la révolution des œillets, enfin sur ce mouvement plus que la révolution soi-même, dont une qui s'appelle La nuit du 28 septembre, hein, qui est un moment très important, à Noite do 28 de septembre, parce qu'il y avait Spinola, il y avait d'autres mouvements politiques. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de cette période, mais je connais très bien toutes ces questions. Donc la nuit du 28 septembre, qui pouvait être une contre-révolution aussi, il pouvait tout à coup, là, cette révolution, on ne savait pas si tous les militaires ne voulaient pas forcément qu'une démocratie se mette en place. Hein. Il y avait le général Yanes, évidemment, mais on ne savait pas toujours vers quoi ça allait aller. Et il a écrit une autre pièce qui s'appelle « Jvakes de Kujankas », les vaches de Kujankas, donc justement sur l'occupation pendant la réforme agraire, de grandes fermes par les paysans et qui ont rêvé d'un autre type de vie en commun, en fait. Et puis une autre qui s'appelait Barrakech, ou les occupations. Et voilà. Ces pièces, donc moi, j'ai eu la chance de jouer dedans enfant. Donc j'ai connu aussi beaucoup d'artistes portugais qui étaient engagés dans toute cette réflexion. Moi, j'étais un enfant, mais je voyais, j'avais la chance de sentir cette force de la volonté de croire en la démocratie, en la liberté de parole, du droit de vote des femmes, de l'égalité de genre, qui était déjà portée par ce mouvement. Et cette utopie sur laquelle nous devons combattre aujourd'hui pour que ces choses-là restent et soient dans le respect justement des personnes, cette idée du respect des personnes, de ne pas vivre dans la peur. Et ça a été des grandes luttes, les gens les oublient quelquefois. Donc mon enfance a été baignée de ça et je tenais vraiment à ce que mon nom portugais, Motte, soit associé au nom français. Je me suis amusé, et d'ailleurs sur ma pièce d'identité portugaise, il est écrit Emmanuel Motte de Marcy. Donc vous pouvez légalement me nommer dans un sens ou dans l'autre. Je peux m'appeler Emmanuel de Marcy, ce qui est très dur à dire pour un portugais, Motte, ou alors Emmanuel Motte de Marcy. Voilà, je me sens tout à fait libre d'avoir ces deux langues, ces deux cultures, ces deux histoires, ce qui fait que je pense, profondément européen dans ce rapport aussi à l'évolution de cet espace européen quand on compare à d'autres pays, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, qui ont connu des dictatures. Par rapport à un pays comme la France, qui a été une république très tôt, une des premières républiques d'Europe, après l'Angleterre, avec l'Angleterre. Le Portugal, c'est 1910 quand même. Il faut rappeler à tous nos amis portugais que c'est quand même une république avant d'être une dictature et que ça a été un modèle républicain très intéressant. Et à la fin du 19e siècle, d'ailleurs, des grandes questions, le Portugal était très en avance la question du droit de vote des femmes a été interrogée à la fin du 19e. Plein de choses fantastiques à comprendre. Malheureusement, la dictature, une des plus longues d'Europe, la dictature de Salazar, a étouffé ce pays. Et regardez, vous demandez à des Français aujourd'hui s'ils peuvent citer trois auteurs portugais. Donc on voit bien que Salazar a fermé le pays, que c'est devenu ce petit pays dont on parle, gentil, dont parlent les Français, c'est un pays gentil, doux. Bien sûr, heureusement, il y a une gentillesse portugaise qu'il ne faut surtout pas perdre, une attention, mais c'est une chape de plomb qui a existé. Regardez la culture italienne comme elle est plus connue, les auteurs, la poésie, la littérature. Donc tout ce travail est fondamental. Il faut faire un travail pour reconnaître aussi un pays de culture, de poésie, qui est Camões. Est-ce qu'il y a un Français qui connaît Camões, la poésie de Camões? Vous connaissez Shakespeare, on parle, mais Camões. Gil Vicente, diraient les Français. Il faut faire connaître. Bon, vous avez cité Fernando Pessoa et les identités multiples. On doit, moi je viens de commander une œuvre à Robert Wilson, qui est un des plus grands metteurs en scène au monde. Je viens de lui demander là, de travailler sur un projet, Fernando Pessoa, pour que Bob Wilson va créer en Italie, là, oui. Et Maria de Medeiros est dedans. Hein. On a fait le casting, c'est un secret, il ne faut pas le dire, vous ne l'avez pas entendu. Donc il y aura de la langue portugaise, de la langue italienne et de la langue française avec ce plus grand metteur en scène qui est Robert Wilson et qui s'attaque au monument Pessoa avec les hétéronymes. Voilà, ça sera une manière de continuer à faire savoir, non pas que le Portugal est mieux que les autres, mais que le Portugal a une culture immense, qu'on doit avoir une fierté aussi de cette culture et une fierté de l'avenir. C'est-à-dire comment on va réussir pour l'avenir à créer aussi cette idée en Europe que le Portugal, ça n'est pas que le pays de la pauvreté, d'une immigration qui a souffert. Bien sûr, ça l'a été. Mais on doit avoir maintenant, avec les nouvelles générations, les enfants maintenant et demain, l'idée que c'est aussi un pays d'une immense beauté, de culture, de créativité, d'invention, de force. De liberté.
Et vous avez présidé pendant 8 mois ce foisonnement culturel au sein de la saison croisée France-Portugal. Quel bilan en tirez-vous?
Pour moi, ça a été l'occasion, par rapport à ce que je viens de vous dire, qui sont des convictions. Là, je viens de parler de convictions personnelles, d'engagement. Mmh. Au-delà de mon engagement personnel, ça a été l'occasion d'expérimenter un dialogue avec le ministère des Affaires étrangères portugais, un ministère des Affaires étrangères français, de voir comment ça se discute, les deux ministères de l'éducation, le ministère de la mer au Portugal. Hein, je vous rappelle qu'il y a un ministère de la mer, des océans au Portugal, c'est essentiel, que la question environnementale au Portugal est parfois même mieux traité qu'en France. Le Portugal a pris d'avance sur la question des océans, sur sa connaissance sur les océans. Il y a des grandes recherches avec des grands scientifiques aujourd'hui portugais. C'est-à-dire, là, avant, nous n'avons parlé uniquement quasiment que du domaine culturel et artistique, si vous voulez, dans son rapport à la société. Là, ce qui m'a vraiment plu, et c'est pour ça que j'ai vraiment été heureux quand Antonio Costa m'avait proposé de présider avec le président Emmanuel Macron cette année, donc France-Portugal, ça me permettait d'être dans le dialogue vraiment des deux pays, et non pas d'être du côté des Français ou du côté des Portugais, mais d'être dans un échange qui construit ce dialogue nouveau, ce pont, un pont, vraiment comment on fabrique un pont, comment on se bat pour le pont, pour qu'une jeunesse portugaise se dise qu'elle n'est pas inférieure, le Portugal n'est pas le petit frère de la France, pour le dire clairement, c'est un grand pays, comme tous les pays sont grands. Il n'y a pas de grands et de petits, comme dans notre humanité. Donc on a besoin de créer ces ponts. Cette année m'a permis à moi, comme président, d'être en lien avec énormément de domaines de la société. Je vous disais le domaine des sciences, il y a des grands scientifiques portugais. Prenez par exemple António Damasio, qui est une immensité, une sommité comme neurologue qui travaille aux États-Unis, qui est lui américain et portugais, mais qui est un portugais, et qui est une sommité sur la question du travail dans les neurosciences, sur le rapport à l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion? Lui, là, il a écrit autour. Il d'ailleurs a écrit un livre très connu qui s'appelle L'erreur de Descartes, et où il dit d'ailleurs que le cartésianisme, la rationalité française, c'est une erreur, non pas du point de vue philosophique, mais du point de vue scientifique. Donc, on a des très grands scientifiques au Portugal. Pour terminer sur cette question, eh bien, on a des sportifs, évidemment, des grands joueurs de foot et au-delà, mais on a aussi de la littérature, du cinéma, et il faut que le Portugal aide mieux sa culture à être connue. C'est de la responsabilité d'un ministère de la culture portugais. C'est de la responsabilité du monde politique aussi. Alors après, toujours ce truc portugais, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est peu difficile. Bon, cafezinho, vous voyez, c'est cette... Bon, il ne faut pas faire dans le misérabilisme, il faut être clair. Il faut avoir une fierté de ce qu'on est. Et même sans beaucoup de moyens, on arrive à faire des choses extraordinaires. Par contre, il faut donner l'impulsion et il faut dire aux gens, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y. Et faites-vous connaître des Français, des Allemands, des Anglais, du continent africain aujourd'hui, demain, et du Brésil, etc., etc., du monde entier, des Russes, qu'on sache quel Portugal, par sa grandeur, Mais je dirais, c'est sa grandeur, c'est justement toute sa créativité dans tous les domaines. Donc je l'ai vu comme président de la saison, c'était un travail très sérieux, très politique, très organisationnel. Je l'ai fait avec joie. S'il fallait le refaire, je le referais, j'ai aucun regret. Et j'ai rencontré des gens formidables dans tous les domaines, et dans des domaines politiques très différents d'ailleurs.
Et cette année 2024 est un grand cru donc pour le Portugal. Vous évoquiez effectivement tout à l'heure Luís Vaz de Camões, en fait les 500 ans de sa naissance cette année. Le pays fêtera aussi les 50 ans de la Révolution des œillets le 25 avril prochain. Est-ce que le théâtre de la ville va célébrer cette grand-messe de la liberté et de la démocratie?
Vraiment, ça serait bizarre après tout ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, ce programme, il n'est pas officiel. Il y a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti. On va le communiquer bientôt. Mais là, par exemple, on va retrouver déjà progressivement, parce que moi, je souhaite que, évidemment, on va faire quelque chose d'important ici même le 25 avril, dans la grande salle Place du Châtelet. Ça sera le jour, le 25 avril, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jour donc exact de la Révolution des œillets, qui aura exactement donc 50 ans de la fin de la dictature dans ce pays. Donc, on va avoir une grande exposition. On est en train d'y travailler dans le hall du théâtre. Il y aura des ateliers aussi qui vont être menés autour du concept de démocratie et des démocraties aussi. Cette révolution nous permet d'interroger aujourd'hui le concept de démocratie parce qu'il est mis à mal aussi sur l'espace européen. Mmh. Attention, au moment où on célèbre une démocratie ou les 50 ans de la démocratie portugaise, on voit bien qu'il y a des risques en France aussi profonds. Avec des journaux qui sont achetés par des grands groupes financiers, une indépendance des journalistes qui recule. On le sait très bien, tout ça. Je ne vais pas les citer, là. Vous avez des journaux en fin de semaine, par exemple. Un jour où avant on allait à l'église, vous savez, et qui portent ce nom-là, qui en fait, sont des journaux qui sont rachetés par des grands groupes et dans lesquels les journalistes sont amenés à écrire pour ce groupe qui lui-même est proche d'un certain type de pouvoir politique. Voilà, donc on sait qu'il y a des journaux qui appartiennent plus à des groupes politiques ou à d'autres, mais attention à ce que les journalistes gardent toujours une indépendance. C'est un combat qu'il faut mener, il ne faut jamais croire que c'est gagné, ça. Donc même en France, qui est cette grande république, il y a des risques. Quand on a en France 42% de gens qui votent à l'extrême droite, il faut se méfier de ce que cela veut dire quant à des grandes questions, dans la relation. Donc, pour revenir à votre question, le 25 avril, il y aura effectivement un grand concert dans la grande salle qui sera annoncé très bientôt. Et ça sera un concert en trois parties avec des gens qui représentent des chanteurs qui ont été des chanteurs militants, mais aussi le rapport au continent africain avec des groupes qui pourraient être comme Africa Negra, des groupes mictiques aussi qui viennent de Saint-Thomé et d'autres parties, enfin, qui ont été en dialogue avec le Portugal et qui ont vécu cette révolution, évidemment, des œillets. Il y aura, bien sûr, la projection du film de Marianne Dage, de Capitaine d'Avril. On travaille au mois de mai. Avant ça, on va remonter en arrière. Je souhaite qu'on commence maintenant, dès le 19 février, une sorte de ligne, de trajectoire qu'on va tenir jusqu'à l'été. Vous voyez, moi, j'aime pas seulement un truc un jour. J'aime bien que ça se construise. Ce que je veux dire, c'est qu'on va construire à partir du 19 février. Par exemple, Katia Guerreiro va être ici pour le Fado avec un concert autour de José Mario Branco. Ça, c'est le 19 février. On aura le 14 mars des lectures de poésie aussi ici. On a Antonio Zambujo avec un chanteur brésilien qui sera présent. Ça sera au mois de début avril. Et puis, on va continuer, je vous ai dit, au mois de mai. Et on va aussi le faire sur la place du Châtelet, en extérieur, etc. Donc, ça va être l'occasion, oui, c'est plus qu'une action, c'est tout un mouvement construit, un dialogue avec aussi d'autres organismes pour développer tout cela.
Ça ne vous aura pas échappé, Emmanuel de Marcimota, les 50 ans de la Révolution d'avril auront lieu près d'un mois et demi après les élections législatives portugaises. Quelle vision, justement, avez-vous concernant ces élections qui arrivent ?
J'en ai une première, là. C'est une question très sérieuse là, que vous me posez. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu au Portugal, comme en France, c'est de veiller à prendre soin de nos démocraties. C'est-à-dire cette liberté du dialogue démocratique, des oppositions, c'est tout à fait nécessaire, à partir du moment où on n'a pas d'intérêt financier derrière, où on n'a pas des groupes en lien avec, je dirais, aussi d'autres grands pays comme la Russie, qui peuvent aussi intervenir quelquefois dans des élections. C'est le risque qu'il y a aujourd'hui sur les États-Unis entre Moscou, dans un rapport avec Trump, puisqu'on sait que Moscou aimerait que Trump gagne, finalement. Donc, il y a des intérêts plus généraux que les gens ne voient pas. On a une montée aussi des extrémismes en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est extrêmement problématique. On a des élections européennes qui seront au mois de juin très importantes, parce qu'elles vont nous donner une température de ce qui se passe dans plusieurs pays d'Europe et qu'on risque effectivement d'avoir des replis identitaires. Et donc il faut trouver comment ouvrir toujours ce débat, ce dialogue pour savoir et expliquer à celles et ceux qui ne comprennent pas ou qui ont peur tout simplement et qui se réfugient dans des idées que certains leur vendent, qui sont des idées faciles, démagogiques, populistes, poujadistes, comme on faisait en France à une fois, quelquefois par le passé, où il y avait ce racisme profond, il ne faut pas l'oublier, quand tu es portugais, hein, ça existait aussi en France, ce rejet des autres identités. Il n'y avait pas que l'Afrique du Nord hein, sur lequel on était raciste en France, hein, le portugais, les italiens, plus tard les turcs, puis le Maroc, l'Algérie, etc. On le sait bien. Donc il faut faire très attention à tout ça. On a une responsabilité aujourd'hui de créer quelque chose de commun, de vivre ensemble en prenant soin les uns des autres. Il y a des problèmes, il faut les traiter. Il y a des problèmes, il y a des questions comment on traite aujourd'hui des mouvements migratoires sans que cela fasse peur à tout le monde. Le problème, ce n'est pas le mouvement migratoire, c'est la peur que cela crée. La peur par rapport à la question de l'emploi, par rapport à la question de la place de chacun, la peur de perdre son identité. Il faut traiter tout cela. Il faut pouvoir en parler. Il faut l'expliquer. On a besoin de responsables politiques qui travaillent. Donc, ce que j'espère vraiment, c'est que le débat et le débat démocratique s'organisent le mieux possible, que... voilà ce qui s'est passé, et je le trouve relativement triste en termes d'image internationale, et qu'on a besoin de reconstruire quelque chose qui redonne confiance à tout le monde, aussi dans l'image européenne et internationale, et que le Portugal sorte grandi avec, je dirais, des forces humanistes qui montrent la valeur de ce pays aux yeux des autres pays, et qu'il ne tombe pas, je dirais, dans un refuge qui est classique aujourd'hui, qu'on retrouve en Europe, et qui malheureusement montre que ces pays se referment petit à petit. Donc on doit créer de l'espoir pour les prochaines générations, c'est très important.
Et comment fait-on Europe? Comment fait-on peuple?
Comment on fait Europe? Eh bien, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que pour cela, il faut que l'éducation le commence plus tôt possible, à rappeler qu'est-ce que ça veut dire, ce dialogue européen nécessaire, parce que l'Europe, c'est une chose très difficile. Pourquoi l'Europe est nécessaire? Parce que les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, elles viennent d'Europe. Et ces deux guerres, elles naissent en Allemagne, par la montée du nazisme, on le sait, donc voilà, ça peut nous mener à des guerres. Elles naissent aussi, ces guerres, par un rapport à la culture qui se défait, culture internationale, cosmopolite, de curiosité, d'ouverture à l'autre. Et pour cela, il faut alors donner le goût et travailler sur le fait de ne pas avoir peur de ce qui nous est étranger. Et de savoir travailler sur soi-même, avec les enfants, sur l'ouverture à des musiques qui viennent d'autres cultures, et que ça ne vous fera pas de mal de vous enrichir des cultures de l'autre. S'enrichir aussi du point de vue culinaire. De pouvoir manger à Paris un couscous, c'est fabuleux. De pouvoir manger un plat portugais, c'est extraordinaire. De manger à Lisbonne un plat qui vient d'une autre culture, c'est fabuleux. Donc on a besoin d'avoir cet enrichissement parce que nous sommes sur la même planète. Et comment nous enrichir ensemble? Et il ne faut pas faire peur, parce qu'aujourd'hui, les médias utilisent la peur des gens, les confortent dans la peur. Et à ce moment-là, la peur de l'autre nous amène au pire, c'est-à-dire au repli et même à la haine. Donc il faut travailler contre la peur et contre la haine. Parce que notre espèce, l'espèce humaine, a montré depuis toujours qu'elle est capable d'aller dans la peur et dans la haine. Et on a bien vu toutes les guerres qui ont existé pendant tous ces siècles et toutes ces humanités. Donc aujourd'hui, nous avons un devoir, vous avez un devoir, nous tous, comme êtres vivants, de travailler à la paix. Vouloir la paix, c'est un combat. C'est ça que je veux dire. Vouloir l'Europe, c'est un combat. Ce n'est pas une chose qui est là. Les gens aujourd'hui vivent avec l'idée des démocraties. On est au Portugal, on est une démocratie, tout est fait. Il y a la paix. Eh bien non. Le pire peut toujours revenir. Il existe parce que l'espèce humaine aussi le contient en son sein. Donc c'est un équilibre fragile. Ce sont des luttes difficiles, mais construire autre chose, produire de l'espoir sur ces nouvelles générations. Donc c'est essentiel de travailler sur cette Europe dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans la culture. Il faut renforcer le rapport à l'éducation, à la connaissance, à la science, à l'histoire. Donc il y a un travail gigantesque à faire, mais qui est un travail passionnant. Ce n'est pas très difficile. Il suffit juste d'aimer un peu son prochain, comme disait l'autre, et de prendre un peu soin de lui. Donc prenons soin les uns des autres, prenons soin de notre Europe, et on arrivera peut-être à construire quelque chose.
On arrivait en France à un grand théâtre national populaire, mais populaire, ce n'est pas si simple que ça. Ça recouvre l'idée des classes sociales, et notamment la question des tarifs. Ça suppose la question de la mixité des âges, la question de la mixité des origines. Comment faites-vous ici au Théâtre de la Ville pour résoudre ces questions?
C'est très simple. Le Théâtre de la Ville applique, justement, quand je dis c'est très simple, des choses claires. Vous avez aujourd'hui un tarif, si vous êtes lycéen, vous venez voir le Songe d'été, ça coûte 10 euros. D'accord? C'est un tarif pour tous les lycéens, tous les collégiens. Jusqu'à 17-18 ans, c'est 10 euros. Vous êtes étudiant ou vous êtes jeune, moins de 30 ans, eh bien pour le Songe d'été, vous payez 15 euros. Donc ce sont des choses qui sont claires et simples. Si vous ne pouvez pas payer 10 euros, il y a des foyers dans les écoles. Il y a des associations, il y a des moyens d'aller au théâtre. Donc, la question du tarif, elle est réglée. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Mais ça ne veut pas pour dire, pour autant, que quand on a réglé la question de l'accessibilité tarifaire, qu'on a réglé le problème culturel. Ça n'a rien à voir. Mais déjà, réglons ça. Premier acte. Deuxième acte, qu'est-ce que j'ai souhaité mettre en place ? On est le seul théâtre à l'avoir fait aujourd'hui en France et peut-être même en Europe. J'ai dit, ça sera gratuit pour tous les jeunes jusqu'à l'âge de 14 ans, le théâtre de la ville cette année. Donc si vous avez un petit frère, une petite sœur, un petit cousin, une petite cousine qui a 13 ans, ils peuvent venir voir le songe d'été avec vous, eh bien vous ne payez pas pour eux. C'est une incitation. On a vu des résultats. On a vu que pendant une année, par les chiffres, eh bien quand on ne fait plus payer jusqu'à 14 ans, on voit une augmentation des jeunes adolescents de 13 ans dans leur salle, accompagnés par leurs parents, leurs grands-parents, leurs cousins. Donc c'est bien une action concrète. Et on peut la mesurer. Aujourd'hui, les gens ont besoin de résultats. Qu'on leur dise, mais ce que vous avez fait, parce que plus personne ne croit en rien, en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Ça marche vraiment? Ça ne marche pas? Eh bien, oui. On a vu, aujourd'hui, une progression très claire du point de vue de la présence des enfants jusqu'à 14 ans. Maintenant, vous allez me dire les classes sociales. Eh bien, comment on traite la question des classes sociales? Prends l'école de la République. C'est-à-dire l'école, aujourd'hui, en France, mais au Portugal aussi. C'est là où vous avez la mixité sociale. Je ne parle pas des écoles privées, je parle des écoles publiques. On travaille avec des collèges dans la ville d'Aubervilliers, dans la ville de Gennevilliers, à Bobigny, à Créteil, que vous connaissez bien. Donc, on travaille dans tous les espaces, y compris périphériques, comme on dit, qui ne sont pas le centre de la capitale, et où il y a une diversité culturelle, mais aussi sociale. Culturelle, ça veut dire des enfants, l'immigration portugaise, algérienne, ce que vous voulez, peu importe, chinoise, peu importe. Donc voilà, ça, ce sont des actions concrètes. Un autre exemple. Donc, je vous ai parlé de l'âge. Mmh. Je vous ai parlé de la mixité sociale. Il faut faire un travail renforcé avec l'éducation nationale. J'ai la chance de présider une association qui s'appelle l'ANRAT, qui est une association d'éducation artistique, c'est-à-dire la place de l'art à l'école. Comment vous, chaque enfant, chaque être humain, a le droit d'avoir des heures de pratique, de musique, de théâtre, de danse, pour justement ne pas dépendre de sa classe sociale. Sinon, ce sont les enfants dont les parents ont les moyens qui vont les inscrire dans les cours de piano, dans les cours de danse, on le sait bien. Non, il faut que tout le monde ait accès, et vous verrez, ça libère, ça permet à l'énergie de l'adolescent de ne pas rester assis toute la journée devant son prof à l'écouter, ce qui est essentiel, bien sûr, mais aussi de pouvoir pratiquer, inventer, être créatif, faire que sa liberté a aussi un pouvoir d'imagination, son être et son imagination peut vivre avec ça. Voilà. Le théâtre de la ville est aujourd'hui présent, nous sommes présents avec l'hôpital de la Salpêtrière, avec les gens qui sont en soins palliatifs, en soins de suite. Il y a des acteurs qui se déplacent, qui disent de la poésie à des gens qui sont malades, qui vivent dans l'isolement, où leurs familles ne viennent pas les voir, ou n'ont plus de famille. Comment on prend soin de l'autre? La question aujourd'hui, c'est qu'un théâtre, c'est un lieu qui doit prendre soin aussi des autres. Ça n'est pas qu'un lieu d'art, un lieu où on est dans une vision descendante, où je vous dis, moi j'ai fait une très belle pièce, allez, venez la voir. Non, je vous dis, venez la voir si vous voulez, vous payerez tel tarif, il y a des débats, des rencontres après, vous pouvez pratiquer des ateliers. On vient d'ouvrir une nouvelle orientation du théâtre qui est l'art et le sport. Moi, je donne des cours de tennis, j'étais prof de tennis, et de théâtre en ce moment. Ce matin, j'étais au PUC, Paris Universitaire Club, pour travailler sur des mouvements en sport et des mouvements en littérature. Et qu'un enfant, quel qu'il soit, de quelle origine sociale, économique, culturelle, vient et peut apprendre aussi le plaisir du théâtre, mais le plaisir du sport. Donc, nous devons créer cette société ensemble où le théâtre fait partie de la ville, fait partie de ce qui fait le lien, nous relie, et non pas seulement, je dirais, réservé à une élite, etc. On le voit sur le Shakespeare, on a eu plus de 3500 aujourd'hui jeunes, on a tous les chiffres, qui viennent par les collèges et par les lycées, qui sont rencontrés par les acteurs, qui pratiquent des ateliers. C'est 3500 déjà en 4 semaines qui sont venus. On a des enfants de moins de 14 ans qui ont aussi découvert cette pièce, et c'est des tout petits, j'ai envie de dire 12-13 ans pour le songe d'été, mais qui sortent émerveillés. Donc ça, c'est une joie de pouvoir les réaccueillir. Et on voit des personnes âgées aussi. Il n'y a pas que les jeunes, j'ai envie de dire ça. Il y a aussi les personnes âgées. C'est tous les âges, toutes les cultures, et peu importe votre classe économique et sociale. Il faut qu'il y ait des lieux dans une ville comme le nôtre où on n'est pas dans une recherche d'enrichissement. Et c'est là-dessus que nous nous battons.
Emmanuel de Marcy-Motin, permettez-moi, nous clôturons là-dessus, de vous lire un court texte et je vous laisserai ensuite le commenter pour terminer cet entretien. Je cite « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de sociétés que moi-même, le plus sociable et le plus aimant des humains, on a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché, dans les raffinements de leur haine, quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfants pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher.
Ben, c'est un texte qui me fait penser à plein de choses. Il me fait penser, par exemple, à la fin du Rhinocéros de Ionesco, pièce écrite Ionesco, auteur roumain et français, qui a écrit, c'est pour vous parler d'autre chose que du Portugal aussi, ou de la France, qui a cherché à écrire autour de ce concept du théâtre de l'absurde, comme Beckett, qui était aussi anglais et français. Voyons, on parle de plusieurs cultures. Adamov, grand écrivain. Et Ionesco écrivait à la fin du Rhinocéros, qu'il a écrit en 1956, donc après la Seconde Guerre mondiale, « Je suis le dernier homme, je ne capitule pas ». C'est-à-dire dans cette idée où finalement, peu importe si le monde va mal ou si les gens vont de plus en plus mal, qu'est-ce que vous êtes capable, vous, de faire pour essayer d'aider ? D'aider, de fabriquer avec vous-même quelque chose d'authentique et de sincère, où l'on retrouve aussi la conviction nécessaire du combat pour le bien de notre humanité. Et comment aujourd'hui, le plus important, c'est de prendre soin de notre humanité. Et on a besoin de prendre soin de nous-mêmes pour aider aussi, je dirais, un chemin pour les autres. Vous avez fait une très belle lecture et je trouve que vous l'avez très bien lu.
Merci beaucoup pour cet entretien, Emmanuel de Marcimota. Et merci de nous avoir reçus ici, Radio Alpha, au Théâtre de la Ville.
Oh bah c'est une joie, Radio Alpha, c'est une grande radio qu'il faut aider à faire connaître du plus grand nombre. Voilà, je le pense et je le dis.
Merci beaucoup.
Merci.